Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave.
Dans le cadre des rencontres internationales co-organisées par l'Université du Natal en Afrique du Sud, par la Rice University de Houston au Texas et par l'Université libre de Bruxelles, dans le cadre donc de ces rencontres qui s'intéressaient cette année à la politique des esprits, nous avons déjà parlé des phénomènes de culte d'apposition et de chamanisme au Kazakhstan, c'est-à-dire dans l'Asie centrale, et nous avons parlé des relations entre le grand néoplatonisme et particulièrement Plotin avec l'Advaita Vedanta, c'est-à-dire la pensée hindoue. Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur un phénomène très particulier qui s'inscrit précisément dans le cadre général des rapports entre l'écriture et l'oralité. Nous allons donc nous interroger sur le statut de la parole telle qu'elle nous a été léguée par la société antique, c'est-à-dire singulièrement, d'une part, par la grande philosophie, c'est-à-dire la philosophie telle qu'elle est fondée par Platon dans l'Athènes classique, et d'autre part, par les coutumes cultuelles, en même temps que par les religions à mystère que nous connaissons bien. Et pour nous aider dans ce parcours, nous avons avec nous Sophie Clémis, qui est chargée de recherche au Fonds national de la recherche scientifique à Bruxelles, ainsi que Baudouin de Charneux, professeur à l'Université de Bruxelles.
D'ombre. On a vraiment cette sensation qu'il y a une loi du secret. Et une loi du secret qui est hautement respectée. Donc, de facto, s'il y a une loi du secret attenant à l'écriture, ben, on peut penser que la pratique de l'oralité était vraiment première et que les rites étaient connus, nous dirions aujourd'hui, par cœur, et que les initiés pratiquaient entre eux dans l'oralité, que c'était une composante majeure des mystères.
Je parlerai à ceux seuls qui ont le droit d'entendre. Fermez les portes aux profanes, comme le veut la loi divine. Et toi, musée, fils de la lune resplendissante, écoute-moi. Je te dirai de vraies paroles. Quels que soient les chemins que tu choisis auparavant, elles ne t'éloigneront pas de la vie que tu cherches. Tiens-toi bien au plus près de la parole divine. Retiens-la dans le creux de ton cœur. Puis, va sur le sentier, à la rencontre du roi de l'univers, l'unique, né de lui-même, pour engendrer le monde où il réside tout entier, sans que nul l'aperçoive, alors que lui aperçoit tout. Il ne m'est pas permis d'en dire plus. À cette seule idée, mon corps tout entier frissonne, car de là-haut, il ordonne et il règle tout. Retiens ta langue, mon enfant, imprègne-toi de ses pensées. Garde-les à jamais dans le secret du cœur. Cité par Eusèbe de Césarée.
Les mystères de l'Asie, on peut dire qu'à travers les temps, ce sont des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire des centaines de milliers de personnes qui ont été initiées. Et on se rend compte qu'on ne sait pratiquement rien. On a quelques mots de Plutarque, on a quelques indications sur en quoi consistait, je dirais, l'objectivité des rites. Mais qu'est-ce que ça recouvrait au juste? Qu'est-ce qui était vécu? Quelle était l'expérience des gens? En fin de compte, on n'en a pratiquement pas d'idée. Et c'est assez étonnant de dire quand même que, alors que tellement de gens ont été initiés, le secret a été gardé.
Ah oui, mais il y avait une composante religieuse. Et donc le secret, c'était un secret qui était évidemment entre les initiés, mais surtout entre l'initié et son Dieu. Et l'idée de se parjurer, de transgresser la loi du secret, était à ce point forte, à ce point prégnante, que les initiés n'acceptaient pas de passer cette barrière, qui est une barrière entre le visible et l'invisible, et une barrière qui était structurellement très forte dans leur culture. Pour les anciens, le religieux se donnait au sens véritablement fort du terme. C'était une réception et il ne s'agissait pas de matiner ou de métisser ce don par rapport à des comportements humains qui auraient été des parasites. Alors, on est là évidemment devant des pratiques qui lient l'homme antique à sa divinité. Et ce que nous pouvons observer, c'est que ce lien est à ce point important, à ce point déterminant, à ce point coercitif, qu'on ne se parjure pas. Alors tout le monde sait, parce que le secret, ce ne sont pas des contenus complexes, hein. Le secret, c'est le dévoilement de certains symboles et la pratique de quelques rites, mais tout le monde sait, mais on respecte la loi du secret à la lettre.
Mais c'est ça justement qui est difficile à comprendre, je dirais, pour une psychologie moderne. C'est que tout le monde sait et on respecte le secret, alors qu'aujourd'hui, nous voyons fleurir les ouvrages qui nous expliquent les secrets de tel mouvement ésotérique, les secrets de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que tout ce qui est secret est au contraire soumis à révélation.
Je pense que la raison est assez simple. C'est parce que aujourd'hui, un rose-croix, un franc-maçon, un néo-gnostique, enfin que sais-je encore, est une personne qui ne se sent pas menacée par le divin si elle vient, entre guillemets, à se parjurer. Donc elle prend une certaine latitude par rapport à son serment, par rapport à son engagement, elle prend un recul, et dès lors, il est permis à cette personne même si elle ne se parjure pas sur des choses qu'elle juge essentielles, du moins de s'exprimer quant à ce qu'elle a vécu et de témoigner, avec même l'assentiment des membres du groupe auquel elle appartient. Mais ceci aurait été impensable dans l'Antiquité. Les initiés se seraient retournés contre la personne directement, donc elle aurait vécu une forme d'excommunication, d'être mise hors de la communauté avec même une certaine violence sans doute. Et puis d'autre part, la personne aurait été convaincue que l'invisible et les dieux qui peuplent l'invisible se seraient retournés contre elle pour lui faire subir les effets de son parjure.
Mais mon cher Phèdre, ne te semble-t-il pas, comme à moi, que quelque dieu me souffle l'inspiration ?
En effet, Socrate, tes paroles coulent avec une facilité inusitée.
Silence donc et prête l'oreille, car véritablement, ce lieu a quelque chose de divin. Et si, au cours de mon discours, les nymphes m'inspiraient le délire, n'en sois pas étonné. Maintenant, déjà, j'approche du ton du dithyrambe.
C'est bien vrai.
C'est toi, pourtant, qui en est cause. Mais écoute le reste, car l'inspiration pourrait bien s'en aller. C'est l'affaire du dieu.
Problème qui se pose, Sophie Klimis, dans les dialogues platoniciens tels qu'ils nous sont offerts et par rapport à ce statut de la parole, c'est que il y a l'horizon de l'âme et le ressouvenir qu'elle doit avoir d'elle-même, et il y a en même temps le rôle, je dirais, des entités, ne les emploie pas des entités, encore que ce soit souvent des êtres intermédiaires, mais disons de la présence d'un invisible, en quelque sorte, qui intervient, tout au moins c'est présenté ainsi dans le texte, qui intervient pour délivrer une certaine vérité ou faire vivre une certaine vérité à celui qui se veut philosophe.
Mais alors si on prend l'exemple particulier du dialogue du Phèdre, par exemple, où interviennent comme divinité intermédiaire les muses notamment, ce qui est peut-être intéressant de marquer, bon, je pense qu'il y a vraiment un rapprochement à faire entre le Phèdre et le prologue de la Théogonie d'Hésiode, parce que dans le fond, Platon reprend le même type de fonctionnement, à savoir, on a pu mettre en évidence que dans le prologue de la Théogonie d'Hésiode, les noms des muses étaient thématisés là pour la première fois, et il semblait être une espèce de cristallisation dans des noms de toutes les descriptions des activités propres à chacune de ces muses. Donc je dirais, plutôt que le nom soit un signe symbole qui renvoie effectivement à une réalité transcendante posée comme existante, je soutiendrais plutôt l'hypothèse que le nom des muses, par exemple, dans le Phèdre, comme création du discours, comme création du logos, renvoie au logos. Et plus précisément, renvoie, donc les muses qui sont thématisées, par exemple, à l'intérieur d'un mythe, par exemple le mythe des cigales, qui est raconté dans le Phèdre, qui joue le rôle d'une charnière entre différentes parties de deux parties principales de ce dialogue, la référence aux muses renvoie, si vous voulez, indirectement, obliquement, à ce qui est en train de se jouer, à ce qui est en train d'être vécu par les deux protagonistes, à savoir Phèdre et Socrate.
Oui, mais alors, de ce point de vue-là, quel devient le statut du discours poétique ? Question d'autant plus grave, si l'on peut dire, que l'on sait très bien que la tradition des commentaires, par la suite, a quand même souvent interprété de manière quand même très divergente.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a différents statuts qui sont accordés à cette parole poétique. Dans le Phèdre, par exemple, il semble que le discours poétique, si on prend par exemple les différentes formes de délire, le délire lié à l'inspiration prophétique, le délire lié à Apollon, l'inspiration des muses, etc., soit récupéré par Platon comme des stades antérieurs d'une initiation qui aboutit ultimement à l'apprentissage de la philosophie. Donc dans le fond, que la parole poétique n'est pas du tout mise de côté ou réfutée, mais qu'elle est réintégrée comme l'une des étapes pour le devenir philosophe, si l'on veut. Dans le fond, Phèdre est d'abord un philomousos, c'est-à-dire un ami des muses, et petit à petit, tout l'enjeu du dialogue est de parvenir à faire de lui un philosophos, un philosophe. Donc, on peut même poser la question, est-ce qu'il ne faut pas d'abord, est-ce que c'est une étape même, est-ce que Platon n'irait pas jusqu'à considérer qu'il faut d'abord être effectivement ami des muses, poète, pour pouvoir accéder à l'expérience, avoir cette expérience poétique, pour ensuite accéder à l'expérience philosophique, et ce qui semble évidemment s'opposer à des prises de position beaucoup plus dures, comme dans la République ou dans les lois, où là les poètes sont, enfin la poésie traditionnelle en tout cas, est bannie de la cité, mais c'est toujours un peu la même chose. Les poètes traditionnels sont Homère et mis à distance, mais en même temps a un impact énorme. Et donc, dans le fond, c'est toujours ce double mouvement de mise à distance et de récupération, dans le fond, récupération, épuration par la parole platonicienne elle-même. Et peut-être qu'on pourrait aller jusqu'à dire, par exemple, que le dialogue platonicien aurait comme idéal d'être la tragédie idéale.
D'ombre. Sème.
Nous sommes aujourd'hui des hommes de l'écriture et même du juridique par rapport à l'écriture, donc enfin, un comportement obsessionnel par rapport au texte. Et si les choses qui sont convenues ne se retrouvent pas dans le texte, eh bien on s'arroge le privilège de ne pas respecter l'engagement. C'est du moins le cas pour le plus grand nombre. Alors, nous avons oublié qu'il y a à peine quelques générations, peut-être deux générations, et c'est encore le cas, je crois, dans la campagne française aujourd'hui, mais topé dans la main, comme on le disait, suffisait pour un engagement. Il y a encore de nombreux milieux de par le monde où la simple parole suffit. À ma connaissance, c'est toujours le cas, par exemple, dans le milieu des diamantaires, pour prendre un exemple concret, où un simple coup de fil, un simple engagement verbal suffit et fait loi. Et si une personne venait à manquer à cet engagement, eh bien, aussitôt, elle cesserait de faire simplement du commerce dans ce milieu-là, parce qu'elle serait décriée, elle serait excommuniée.
Et justement, on a l'impression qu'il y avait dans la parole, je dirais, un pouvoir qui avait à voir quelque chose avec le surnaturel, d'une certaine manière. C'est-à-dire que la parole engageait complètement l'être humain et engageait même un rapport au monde.
La parole, dans le contexte des mystères, et l'engagement par serment, engage ce que nous appelons la relation avec le surnaturel. Il est question d'un hieros logos, donc d'une parole sacrée, qu'on a parfois traduit par notion de parole révélée, et qu'il convient de respecter au pied de la lettre, de recueillir, de conserver en soi, dans le silence du mystère. Ça, c'est une certitude. Et ce qui est communiqué de façon externe, ce sont des propos de table, voire des éléments de la comédie, comme chez Aristophane, enfin, ou des éléments qui en fait peuvent être communiqués aux non-initiés. Mais ce qui est véritablement le cœur de la révélation mystérique n'est pas révélé à ceux qui sont en dehors. Donc là, vous avez absolument raison, il y a un respect qui est lié profondément au sacré. Mais il ne faut pas sous-estimer le caractère sacré de l'engagement par la parole, en ce compris dans des activités éminemment profanes que j'évoquais tout à l'heure, comme par exemple la vente d'une vache d'un agriculteur à un autre agriculteur. C'est parce que c'est la parole de l'homme, en ce qu'il est dans la société, lié aux autres, et lié aussi par un corpus religieux, qui le relie à l'ensemble des membres de la collectivité, qu'on peut faire confiance à une parole comme celle-là. Et donc, dans les sociétés traditionnelles, le religieux n'est jamais dissocié de l'engagement de l'homme.
Quel est le rôle de l'inspiration? Parce que d'une part, dans le fait, l'inspiration poétique est comptée parmi les quatre bonnes folies, ces fameuses quatre bonnes folies, d'une part, et d'autre part, dans un dialogue comme le Lion, on voit très bien que finalement, il y a les faux poètes, si l'on peut dire, c'est-à-dire ceux qui n'ont que du métier, de la techné, pour reprendre le mot grec, et puis il y a les vrais poètes qui sont ceux qui sont inspirés. Donc malgré tout, on voit ce thème de l'inspiration revenir.
Oui, tout à fait. Alors, je dirais que pour moi, le thème de l'inspiration est inséparable du thème du désir, et je dirais spatio-temporellement, du thème du kairos, de ce moment propice. Le Phèdre, par exemple, montre qu'il faut qu'il y ait toute une série de variables spatiales et temporelles favorables. Donc, le moment est celui du plein midi, d'une chaleur accablante dans laquelle la plupart des hommes cèdent au sommeil. Et là, il y a ce monde, dans le fond, qui accueille les deux protagonistes à l'ombre d'un platane, au bord d'un cours d'eau, et qui fournit les conditions favorables. Et c'est justement, je dirais aussi, très certainement, le désir qui circule entre Socrate et Phèdre. De plus aussi, tout l'enthousiasme qu'a Phèdre au départ par rapport au discours, par rapport à votre question, le dialogue commence quand Phèdre lit le discours de Lysias. Et Socrate thématise très bien que ce n'est pas le discours de Lysias qui en soit intéressant, c'est l'enthousiasme, c'est le fait que Phèdre était complètement transfiguré, dans le fond, par son admiration, par son amour, par son désir vis-à-vis de Lysias, qui, dans le fond, donnait toute sa valeur à ce discours, qui, comme tel, pouvait être, dans le fond, complètement, aurait pu être tout à fait écarté. Donc, je dirais, oui, il y a cette inspiration, mais que, de nouveau, je ne rattacherai pas forcément à des entités. Je pense que le rapport aux entités extérieures, comme celle des muses, est dans le fond, est un fait de discours pour thématiser, justement, cette espèce de conjonction particulière à un moment et à un lieu précis, qui est ce lieu, ce moment particulièrement accueillant, et cette configuration de ces deux protagonistes à ce moment-là, qui permet effectivement que quelque chose se passe.
Alors, à partir du moment où vous écartez qu'il y ait des entités supra-visibles ou supranaturelles, disons, ou qu'il y ait quelque chose de l'ordre du daimon, c'est-à-dire de la précisément du demi-dieu de l'être intermédiaire, à ce moment-là, quelle est la nature réelle du logos? Est-ce que c'est simplement quelque chose qui est engendré par l'humain, qui se reboucle dans l'humain, puisque apparemment vous lui interdisez le ciel?
Alors je dirais que quand même je lui interdis pas le ciel, mais si tous les discours justement qui tiennent compte de ces entités transcendantes sont toujours présentés par Platon comme des mythes. Il y a toujours cette restriction, par exemple au niveau de la métempsychose de l'âme. Nous avons un discours ici vraisemblable qui ne correspond pas à la chose en elle-même, qui est finalement limité par notre condition humaine, effectivement, et par nos facultés. Alors je dirais oui, effectivement, pour moi c'est un discours fondamentalement anthropologique qui pose peut-être un plan transcendant, mais qui ne serait qu'un, comment on pourrait appeler ça, quelque chose qui fait rebondir et qui effectivement recentre sur l'humain, mais pour montrer, je dirais, les potentialités illimitées de l'humain. Et le fait que le logos n'est pas quelque chose, n'est pas réduit à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la raison, mais prend en considération justement aussi tout ce qui est de l'ordre du désir, de l'affectivité. Je pense que justement la forme dialogue pour Platon est ce qui permet d'accorder véritablement un statut central à l'affectivité dans le processus de pensée.
Il y a une troisième espèce de possession et de délire, celui qui vient des muses. Quand il s'empare d'une âme tendre et pure, il l'éveille, la transporte, lui inspire des odes et des poèmes de toutes sortes, et célébrant d'innombrables hauts faits des anciens, fait l'éducation de leurs descendants. Mais quiconque approche des portes de la poésie sans que les muses lui aient soufflé le délire, persuadé que l'art suffit pour faire de lui un bon poète, celui-là reste loin de la perfection. Et la poésie du bon sens est éclipsée par la poésie de l'inspiration.
Qu'en est-il de la parole des dieux lorsqu'elle vient à s'exprimer? Parce que dans tout ce qui est type d'activité oraculaire, Platon dans le Phèdre y fait allusion, etc. Et même la fameuse étrangère de Mantinée, lorsqu'elle enseigne à Socrate ce qu'il rapporte dans le banquet, on voit très bien qu'elle est du côté de la mantique en même temps, etc. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a vraiment une parole des dieux qui elle-même a son poids, et qui, d'une certaine façon, même dans un philosophe aussi rationnel que Platon, c'est presque le sommet de la philosophie.
Oui, évidemment, Platon pousse très fort dans le sens de la révélation philosophique et son philosophe est pour le moins un personnage hautement inspiré. Tous les philosophes de l'Antiquité ne s'alignent peut-être pas sur le modèle de Platon qui surdétermine quand même très largement l'intelligible, peut-être y compris même pour les anciens. Mais il est vrai que la parole du divin est recueillie. Elle est recueillie par les cités, elle est recueillie par les personnes qui consultent les oracles, hein, sous l'égide de cette immense figure de la divinité qui est Apollon, hein, qui est véritablement le dieu qui chapeaute l'activité oraculaire. Cette parole est également présente dans les révélations des mystères, comme ceux d'Éleusis que vous avez évoqués, mais il y en avait bien d'autres. Alors là, ce qui est assez intéressant, c'est que cette parole ne se donne pas, la plupart du temps, dans sa brutalité. Elle nécessite un décodage, hein, elle nécessite une herméneutique. Et il y a des personnages qui sont préposés à ce décodage. On reconnaît bien l'exemple de Delphes avec la Pythie et probablement des prophètes autour qui avaient pour objet de décoder le message ambigu du Dieu. Donc on pourrait caricaturer en disant les hommes n'ont pas une ligne directe avec le divin, ils ne sont pas en communication incessante. Il y a un décodage, une herméneutique qui s'opère au travers de lieux qui sont des lieux de sanctuaires, d'oracles, au travers de mystères qui sont des lieux où les personnes peuvent avoir accès à certains rites plus particuliers qui les connectent à un dieu ou à un héros local. Et systématiquement, la parole se donne, mais ne se donne pas de façon directe. Ça, je crois que c'est ce qu'on peut vraiment observer. Dès lors, ça laisse quoi? Ça laisse aux hommes le soin de comprendre. Le soin de comprendre et donc d'apprendre. Et on le voit très bien, notamment dans le cas d'Apollon, hein, dieu de la géométrie, etc. Une tradition que Plutarque rapporte, Plutarque aime beaucoup la figure d'Apollon, un tardif, et de dire « le dieu pose aux hommes des énigmes pour les amener à la philosophie ». C'est-à-dire qu'en fait, le message divin n'est pas, comme on pourrait le croire, une façon d'exprimer ce qui va se passer dans le futur, hein, une espèce de mancie naïve où on va vous dire exactement ce qui va se passer et comme ça vous êtes au courant et le Dieu vous a aidé. C'est pas ça. C'est une façon de vous préparer à une compréhension supérieure.
Justement, dans cet usage antique de l'oracle, c'est-à-dire finalement de la parole divine, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est exactement à l'inverse de ce que nous pensons aujourd'hui? Pour nous, un oracle, c'est « il va arriver cela », c'est une sorte de fatalité, je dirais, de dépossession de l'homme par l'homme de sa liberté, de sa responsabilité. Je pense évidemment à la fameuse parole d'Héraclite, « le dieu qui est à Delphes ne dit rien, n'affirme rien, il signifie ». Mais il signifie, c'est-à-dire qu'il donne du sens, et donc c'est une invite à l'homme, au contraire, à exercer sa responsabilité et avoir la liberté de son intelligence, qui lui permet de comprendre quel est le sens, justement.
Je pense que c'est la façon dont les érudits parmi les anciens lisait les choses. Il est probable que l'homme, la femme du peuple qui montait vers l'oracle s'attendait à des réponses simples sur des questions simples de la vie. Mais en ce qui concerne le décodage qu'en faisaient les intellectuels, il est tout à fait conforme à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'une invitation à chercher ce que nous appelons, nous, le sens. Hein. Donc à décoder les faits, à décoder les paroles, et à rebondir sur ce décodage pour agir de façon plus juste, conformément au divin. Et la phrase d'Héraclite le symbolise très bien. Il y a d'autres phrases de philosophes antiques, comme Plutarque, qui s'est beaucoup intéressé au phénomène oraculaire, au Philon d'Alexandrie, quand il parle plutôt de l'univers de l'Ancien Testament, qui nous amène au même type de réflexion. C'est-à-dire, il s'agit d'une interrogation, d'une question, et d'une invitation à poursuivre un chemin. C'est vrai aussi pour les cités ou pour les rois. On a un exemple classique concernant l'oracle de Delphes, hein, où il y a une interrogation qui vient d'Asie mineure du roi Crésus, qui demande « que se passera-t-il si je fais la guerre contre Cyrus ?» Et la réponse est « si tu fais la guerre, un grand empire s'effondrera ». Lui interprète ça comme un signe de victoire, et en fait c'est la défaite qui est au rendez-vous, puisque c'est son empire à lui qui était visé par l'oracle. Que fait l'oracle? En fait, il invite l'homme à réfléchir sur le sens de la guerre. Dans la guerre, il y a toujours un vainqueur, un vaincu. Et généralement, d'ailleurs, celui qui est vainqueur est aussi partiellement vaincu parce qu'il a perdu une part de ses ressources. Donc, il renvoie les hommes par rapport à la brutalité de leur raisonnement. Mais l'homme qui n'a pas été capable de comprendre, c'est du moins ce que l'oracle semble signifier après coup, eh bien, est détruit.
Le délire est pour nous la source des plus grands biens, quand il est l'effet d'une faveur divine. C'est dans le délire, en effet, que la prophétesse de Delphes et les prêtresses de Dodone ont rendu maints éminents services à la Grèce, tant aux États qu'aux particuliers. De sang-froid, elles n'ont guère ou n'ont point été utiles. Ne parlons pas de la Sibylle et des autres devins inspirés par les dieux, qui, par leurs prédictions, ont mis dans le droit chemin bien des gens. Ce serait allonger le discours sans rien apprendre à personne.
Dans cet usage de la parole, ce Viclimis, si on en revient aux quatre folies, on est frappé de voir que bon, la folie poétique, effectivement, c'est clairement de l'ordre de parole, mais la folie mantique ou la folie oraculaire, c'est aussi bien évidemment de l'ordre de la parole. La folie érotique, on voit très bien ce que ça peut donner d'après le texte du banquet, et dont la vérité est exprimée précisément par la parole de l'étrangère de Mantinée. On pourrait aussi étudier le statut de la parole dans la folie célestique. Qu'est-ce que ce type de parole qui est de l'ordre, justement, lorsqu'on dit de la bonne folie, mais qui quand même est de l'ordre de la folie? On voit très bien la manière dont Socrate s'est défini plusieurs fois comme atopos, enfin comme fou finalement, en dehors des sillons de la cité, et arrivant à une parole qui souvent finalement... Ça va être toute la grande tradition des commentaires ensuite, qui va devenir une suite de paradoxes, une suite de discours considérés justement comme fous par la raison commune.
Cette parole est ce qui fait redécouvrir le fond, on pourrait appeler cela dionysiaque ou affectif de toute raison ou de toute parole raisonnée ou de toute parole sensée. À la base, s'il n'y a pas quelque chose de l'ordre d'une impulsion, d'un désir, qui s'auto-limite et qui s'auto-organise par la suite en pensée raisonnée. J'ai par exemple, dans ce cadre-là, la différence entre la distinction entre mauvais délire et bon délire, entre mauvais désir et bon désir qui traverse une partie du texte, cette distinction-là, elle-même, dans le fond, rétrospectivement, doit être comprise comme une des étapes de la dialectique, celle où il s'agit de diviser, dans le fond, ce qui est thématisé pour le comprendre, mais l'enjeu est ensuite d'arriver à la seconde étape dialectique qui est de réunifier. Et là, on se rend compte, et c'est là que tout d'un coup, justement, effectivement, toutes nos évidences sont déstabilisées, à savoir que, par exemple, entre ce bon désir, mauvais désir, bon délire, mauvais délire, peut-être qu'au départ, il n'y avait pas de différence. Peut-être qu'au départ, il y a effectivement un désir purement corporel, par exemple, de Socrate pour Phèdre, qui s'auto-limite et qui s'auto-structure en autre chose au fur et à mesure. Mais dans un sens infini, c'est-à-dire non pas comme une restriction, comme une... dans un sens... On pense toujours, enfin, nous aurions tendance à penser la limite comme un manque ou comme un déficit. Là où je dirais quelque chose comme le dialogue platonicien nous montre au contraire que cette limite est quelque chose d'infini et ce qui assure la plénitude, qui permet justement à l'expérience ou aux philosophies de s'épanouir dans toute sa plénitude.
Dire aussi que toute la philosophie platonicienne est purement une philosophie du désir et que même elle n'existerait pas sans le désir, et qu'à la limite, presque même, je dirais, c'est la philosophie qui elle-même est une activité érotique, si on l'entend évidemment au sens premier du terme.
Oui, alors je pense que ce lien entre désir et parole est vraiment crucial, fondamental. C'est une sorte d'impensée qui traverse toute l'histoire de la philosophie, plus ou moins, mais chez Platon, il est là à l'avant-plan. Le thème est, effectivement, il faut qu'il y ait quelque chose de l'ordre de l'épithumia, du désir à la base, comme une sorte de, je vois pas de meilleure image que d'impulsion, que de ce qui donne la dynamique, de ce qui met en mouvement. Alors le problème étant, si on s'arrête là, et si ce désir s'englue dans un désir physique, effectivement, il n'y a pas de philosophie. Mais il faut qu'il y ait, c'était dans le fond, ce qui donne l'enthousiasme au départ. Donc effectivement, cet élément complètement... immaîtrisable à la base, qui est, je pense, aussi lié à ce thème du kairos, comme donc de moment propice et de rencontre entre deux personnes, pour que quelque chose, c'est assez difficile à thématiser, que effectivement la démarche philosophique puisse s'enclencher.
Oui, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il faut éventuellement revoir par rapport à la manière traditionnelle que nous avions eue de lire Platon ? C'est-à-dire que ce désir n'est pas quelque chose de forcément agréable ni séducteur. Je pense évidemment à la figure d'Eros dans le discours de Diotime dans le banquet, qui nous est montré comme quelqu'un en même temps d'extraordinairement fruste, un peu sauvage, couchant à la belle étoile, d'aspect parfois un peu repoussant, comme s'il y avait quelque chose qui était à la fois, je dirais, évidemment, je parle en termes modernes, d'infra et de suprahumain dedans. Et que c'est quelque chose qui est de l'ordre, précisément, de la négociation à mener avec.
Ah oui, alors je serais vraiment absolument d'accord avec vous. Et infra-suprahumain, oui, mais en même temps qui traverse l'humain, donc qui n'est compréhensible qu'avec ce référentiel-là, et qui est effectivement tout à fait lié à une forme aussi de violence, qu'il s'agit de domestiquer, qu'il s'agit de cadrer, mais sans non plus l'éradiquer, c'est ça, puisque c'est une sorte de flamme qui animerait le questionnement en lui-même. D'où l'importance aussi peut-être de nouveau de cette forme dialogue comme ce qui permet de rendre compte finalement, pour le dire vraiment très simplement, de la vie de la pensée qui est en train de se faire et justement pas de sa sclérose, pourrait-on dire, dans un texte écrit ou dans quelque chose dont tout d'un coup il y a une distance et qu'on n'arrive plus à réhabiter.
Il n'y a pas implicitement, par rapport à la parole divine, que la parole divine ne peut pas être la parole humaine, ne peut pas être aussi claire et aussi univoque, si tant est que la parole humaine soit univoque, mais elle ne peut pas être aussi simple, je dirais, que la parole humaine, et que c'est un langage devant notre langage à nous, et donc forcément un langage énigmatique.
Dans l'ensemble, la notion que vous amenez d'une parole divine qui est au fond une irruption dans le champ de l'humanité, qui est une parole qui se donne différemment, je pense, est attesté. Le plus bel exemple est certainement à Delphes, où la parole est proférée par une pythie, mais qui apparemment ne proférait pas des sons articulés ou un discours construit. Donc c'est une parole qui serait de type glosolalique ou quelque chose du genre, ou ce qu'on appelle parfois parler en esprit ou quelque chose du style, c'est-à-dire une série de sons qui sont alors décodés par des professionnels, qui écoutent ces sons et qui, sur base de ce que la pythie dit, interprètent. Et alors, nous savons qu'en aval du processus, il y avait même un travail de versification assez sophistiqué qui était mené par des poètes, de façon à remettre la parole du dieu dans des formes grecques acceptables, etc., etc. Mais au départ, c'est donc une collection de sons qui semble être à l'origine du langage prophétique du dieu Apollon. Nous avons un exemple à Dodone. On nous rapporte que les devins interprètent les paroles divines au travers du bruissement des feuilles de chêne. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu un chêne bruisser, mais ce n'est pas très clair du point de vue du discours, et ce n'est pas un discours philosophique de type classique. Et là aussi, nous avons des devins, des herméneutes, qui sont présents et qui tentent d'interpréter ces sons. Donc, on voit bien là qu'il y a un travail qui se trouve entre une parole qui se dit, une apérité, diraient les philosophes, une ouverture vers l'invisible, et d'autre part, le décodage même de ce que les anciens appelaient parole, mais qui pour nous, en fait, ne relève pas directement du langage au sens où nous l'entendons.
livres.
Puisque nous nous interrogions sur le statut de la parole, je voudrais, dans les livres de cette semaine, attirer l'attention sur la publication des 101 quatrains de libre-pensée de Omar Khayyam aux éditions Gallimard dans la collection Connaissances de l'Orient. Pourquoi par rapport au statut de la parole? C'est que, même si bien entendu il s'agit d'une œuvre écrite et non pas orale, les quatrains de libre-pensée ont marqué comme un tournant intérieur dans la culture islamique. Omar Khayyam, en effet, qui vit pour moitié à la fin de ce que nous appelons le XIe siècle, pour l'autre moitié au début du XIIe siècle, Omar Khayyam, à la fois astronome, mathématicien, poète, comme on l'était tout naturellement à cette époque-là, Omar Khayyam, donc, fait preuve d'une sorte d'agnosticisme absolu, d'une libre pensée, telle que nous allons donner d'ailleurs ce sens à cet ensemble de mots, et introduit une parole extraordinairement subversive, pour ne pas dire révolutionnaire, à l'intérieur de la culture islamique, et en même temps, bien entendu, à l'intérieur de la religion islamique elle-même. D'une certaine façon, il pense que l'éternité est dans l'instant présent, et bien au-delà de ce que nous avons l'habitude d'appeler l'épicurisme, il institue une parole qui est d'abord comme un acte, l'acte de penser, bien entendu, l'acte de conduire sa vie en même temps, et l'acte de conduire sa vie selon les seuls idéaux que l'on peut se donner à soi-même, dans cette quête, précisément, du temps étiré au-delà du temps même, à l'intérieur du plaisir, de la joie, du rapport à soi-même que l'on institue dans le moment fugitif. On nous promet dans le ciel des houris aux yeux de braise, et du vin, du lait, du miel pour notre joie et notre aise. Pourquoi donc d'aimer le vin et l'amour nous faire honte, puisque c'est en fin de compte ce qu'on nous offre demain? Dans ce registre de la parole transmise, même si elle l'est à nouveau par l'écrit, je voudrais attirer aussi l'attention sur la publication aux éditions L'Atalante du roman du roi Arthur de Thomas Malory. Pourquoi se focaliser ainsi sur l'œuvre de Thomas Malory, si ce n'est que, écrivant au XVe siècle et dans les îles britanniques, Thomas Malory est l'héritier de toute la tradition de la matière de Bretagne, de toute la tradition arthurienne, que d'une certaine manière il ramasse dans une œuvre qui va marquer ensuite l'ensemble de la littérature anglaise, mais qui surtout est comme le point final, comme le crépuscule en quelque sorte de la geste arthurienne, et on sait que cette réécriture de l'ensemble de la geste en quelque sorte est d'une sorte de souvent naturalisme, si on peut se servir de ce mot pour le Moyen-Âge, de violence contenue, mais de violence absolument évidente, qui précisément ont ces couleurs du crépuscule au moment où la geste arthurienne va plonger en quelque sorte dans l'inconscient de l'Occident pendant plusieurs siècles. Comme Arthur gisait près du lac, on vit venir une barque. Il s'y trouvait plus d'une gent dame, et parmi elles, trois reines. On le plaça dans la barque, et les trois reines reçurent le roi avec beaucoup de lamentations. Dans le giron de l'une des reines, il posa la tête, et cette reine lui dit « Ah, mon cher frère, pourquoi avoir tardé si longtemps à venir près de moi ?» Enfin, je voudrais finir en évoquant la publication de textes, jusqu'ici inédits mais absolument fondamentaux, de Samuel Taylor Coleridge, Les Sermons laïques et l'ami, aux éditions Gallimard. Coleridge, on le sait, est l'une des têtes de file du grand romantisme anglais, c'est-à-dire que il met en place ce qu'il appelle une écriture historiante, c'est-à-dire que d'une part, il se met dans la perspective, dans la longue tradition de ce qu'il est convenu d'appeler le platonisme anglais, depuis l'université de Cambridge au XVIe et au XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'il recrée un idéalisme de l'imagination, et précisément, il essaie de définir une imagination qui soit comme le point d'articulation entre l'histoire et le mythe, c'est-à-dire, en fin de compte, qui se trouve extrêmement proche de l'imagination créatrice, de l'imagination connaissante, telle que l'avait thématisé quelqu'un comme Proclus, à la fin de l'Antiquité, ou bien alors, telle qu'on la trouve, dans la philosophie mystique de l'islam, et particulièrement dans le soufisme, ou chez quelqu'un comme Ibn Arabi. Et là, nous avons donc une œuvre absolument essentielle, qui est comme l'étendard de ce qui va être le grand romantisme, au-delà du sens un peu superficiel que l'on donne souvent à ce mot, mais précisément du romantisme en tant que connaissance de la nature, en tant que connaissance de ce qui est au-delà de tout principe, au-delà de tout abîme en quelque sorte, de la déité, dans le néant du discours, et qui est rendu précisément par la force de l'imagination et en même temps par l'arrangement des symboles. Je tiens l'imagination pour le pouvoir vivant et l'agent primordial de toute perception humaine, et pour une répétition dans l'esprit fini de l'acte éternel de création dans le « je suis infini ».
Les livres aujourd'hui. Les 101 quatrains de Libre Pensée de Omar Khayyam aux éditions Gallimard dans la collection Libre Pensée. Le roman du roi Arthur de Thomas Malory aux éditions La Talente et Les Sermons laïques de Samuel Taylor Coleridge aux éditions Gallimard. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Baudouin de Charneux. Texte lu par Catherine Matelli et Frédéric Prévost. Mixage Olivier Dupré, réalisation Isabelle Lefebvre-Huel.
Jamais de morale, jamais.
C'est un fait. La nation est un phénomène bourgeois.
Non la colère, non l'impatience.
Mais précisément, si je détourne les yeux de l'homme, regardez les nations,
la résistance,
je constate qu'ici encore, le péril est grand.
Les conduites humaines.
Que l'entreprise coloniale est au monde moderne.
Invitation à l'errance, longues errances sur les terres de Marguerite Duras dans l'atelier de création radiophonique. Capter les traces, imaginez les traces de Duras au Cambodge dans les années 30. Le prétexte, une exposition au centre culturel de Phnom Penh. La réalité, la chaîne brisée des métamorphoses.
Le monde nègre disqualifié, d'immenses voix à tout jamais éteintes.
Fragments de ville, fragments de pampa cambodgienne, fragments de vie, quand n'existe plus que les livres.
Tout ce bousillage, tout ce gaspillage, l'humanité réduite au monologue, et vous croyez que tout cela ne se paie pas?
De Phnom Penh à Kep, de Kampot à Prenup, un micro qui se pique sur le sol et se repique un peu plus loin. Des voix, des chants, des rêves, des souvenirs. Les rizières Duras, dans la CR, dimanche 9 et 16 février à 22h40 sur France Culture.
La vérité est que dans cette politique, la perte de l'Europe elle-même est inscrite.
À noter que le Cambodge sera également au cœur d'une série de Surpris par la nuit du 18 au 21 février.
Vous écoutez France Culture, il est 8h. Aujourd'hui, Pascal Lismonde fête les 80 ans d'Anthony Tapiès.
Clin d'œil. Aujourd'hui, Dietary, une série de...